Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, très chers amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi soir, 12 novembre 2020. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le ministre iranien des Affaires étrangères et le premier ministre pakistanais se sont entretenus des questions bilatérales, y compris les moyens d'étendre la coopération économique et commerciale, en particulier le renforcement des transactions frontalières entre les deux pays. Quatre personnes ont été blessées après une explosion dans un cimetière non musulman de la ville saoudienne de Jeddah. Et au moins 7 soldats burkinabés ont été tués dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés dans la province de Ouadalan, dans le Sahel burkinabé. C'était les titres, en voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, lors de sa troisième réunion officielle à Islamabad, s'est entretenu mercredi 11 novembre avec le premier ministre pakistanais, Imran Khan. Les pourparlers entre Zarif et Imran Khan portaient sur des questions bilatérales, y compris les moyens d'étendre la coopération économique et commerciale, en particulier le renforcement des transactions frontalières entre les deux pays. Les deux parties ont également souligné la nécessité d'une coopération bilatérale entre Téhéran et Islamabad dans le cadre de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, y compris la coopération étroite pour instaurer la paix en Afghanistan. Le premier ministre pakistanais et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran ont appelé à lutter contre le phénomène de l'islamophobie et à des efforts conjoints pour résoudre les problèmes du monde islamique et renforcer les liens entre les deux pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères s'est déjà entretenu avec le commandant de l'armée pakistanaise, le général Bajwa, et le ministre des Affaires étrangères, Shah Mahmoud Qureshi. Un nouveau convoi militaire américain est arrivé à la base d'Ain al-Assad en Irak. Une source concordante irakienne a confié à l'agence de presse Al-Maluma qu'un convoi militaire américain composé d'une centaine de véhicules blindés et d'ambulances était arrivé à la base aérienne Ain al-Assad dans la province irakienne d'Al-Anbar. Personne ne connaît encore la raison de l'arrivée de ce convoi, a-t-elle indiqué. D'importants dispositifs de sécurité ont été rétablis sur la base et des installations sécuritaires ont été récemment ajoutées à un certain nombre de bâtiments de la base, a déclaré la source irakienne, ajoutant que les commandants américains avaient qualifié ces mesures de précaution. Selon la même source, les drones américains n'ont cessé de survoler la base alors qu'un autre convoi de 200 véhicules militaires y est arrivé le 4 novembre. Des sociétés de sécurité américaines assument la responsabilité du transfert des équipements militaires à Ain al-Assad et les soldats se déplacent par avion pour s'installer sur cette base aérienne ainsi que dans d'autres endroits où sont présentes les forces américaines. les soldats américains ont déjà évacué des bases militaires réparties dans la province d'Al-Anbar. Des sources sécuritaires et politiques concordantes avaient apparemment mis en garde contre de nouveaux plans des États-Unis pour Ayn al-Assad après le déploiement du système de défense anti-aérienne Patriot et le développement de son aérodrome. 4 personnes ont été blessées après une explosion dans un cimetière non musulman de la ville saoudienne de Jeddah, un rapporteur Reuters citant un responsable du gouvernement grec. Il y a eu une forte explosion au cimetière non musulman de Jeddah. Il y a 4 blessés légèrement, dont un grec, a déclaré le responsable, refusant de donner son nom sans fournir davantage de détails. Une grenade a été jetée lors d'une cérémonie commémorative du 11 novembre à laquelle participaient des diplomates français et occidentaux. Elle aurait fait 4 blessés, dont un ressortissant grec et un italien, selon un diplomate européen. Le consul général de France, ceux d'Italie, ceux de Grande-Bretagne, de Grèce et du Liban étaient présents à cette cérémonie, de même que les attachés de défense français et britanniques, confie une source sécuritaire. Le consulat de France en Arabie Saoudite a demandé aux ressortissants français de faire preuve d'une vigilance accrue et de prendre des précautions de sécurité s'ils voyagent en Arabie Saoudite. L'ambassade de France aux Émirats Arabes Unis a donné les mêmes conseils aux ressortissants qui se rendraient dans ce pays. Un soldat de l'armée israélienne serait porté disparu en Cisjordanie. La chaîne d'information libanaise Al-Mayadin a rapporté qu'un militaire israélien serait porté disparu près d'une colonie illégale des Israéliens non loin de Ramallah. Selon une source militaire israélienne, ce soldat serait porté disparu lorsqu'il se rendait dans la région de Izma, à quelques 7 km du centre de la ville de Rots. Dans un communiqué, l'armée israélienne a annoncé la disparition de ce soldat et a demandé aux colons qui habitent dans les colonies de la Cisjordanie entre Ramallah et Rots de contribuer aux efforts de l'armée pour retrouver ce soldat disparu. La chaîne Al-Mayadin n'a pas fourni plus de détails à ce sujet, mais son journaliste n'a pas exclu la possibilité d'un enlèvement. La disparition des soldats israéliens dans les régions occupées de la Cisjordanie n'est pas un événement isolé ces derniers temps. En effet, l'armée du régime de Tel Aviv a fait état à plusieurs reprises ces derniers mois de la disparition de ses soldats. 3e coup anti-Algérie en l'espace de quelques jours. Après avoir poussé le Conseil de sécurité à voter vendredi une résolution anti-Algérie dans le dossier fort délicat du Sahara occidental, résolution aussi concrétisée par des agissements anti-algériens à Guerguera, les forces de sécurité algériennes viennent de démanteler une cellule d'agents qui espionnait pour l'ambassade de France à Alger. Le tribunal correctionnel d'Algérie a ouvert une affaire d'espionnage impliquant des Français. Le journal algérien Echirouk Online a rapporté mercredi 11 novembre que les détenus étaient des éléments affiliés à la France qui espionnaient des positions importantes et vitales à Rabat. Selon le journal, 6 personnes étaient impliquées dans l'affaire, dont plusieurs agents du port d'Alger, de l'aéroport international Ouari Boumediene et une autre personne dénommée Dinger Ali. Cette personne a la nationalité française et a 2 relations suspectes avec l'ambassade de France en Algérie. Selon le rapport, l'espion a fourni à l'ambassade de France des informations précises et des nouvelles importantes sur les positions des centres gouvernementaux sensibles. Le tribunal pénal algérien a tenu une audience publique et a annoncé que l'enquête sur ces personnes avait débuté en 2018. Selon le tribunal, les forces de sécurité ont soupçonné Dinger Ali de se rendre à l'ambassade de France à bord d'une voiture avec une plaque d'immatriculation diplomatique et il a ensuite été prouvé qu'il espionnait pour l'ambassade de Paris. Au moins 7 soldats burkinabés ont été tués mercredi dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés sur l'axe Tinagof-Beldiab dans la province de Loudalan dans le Sahel burkinabé, a appris chinois des sources sécuritaires. Une patrouille de l'armée burkinabé est tombée mercredi dans une embuscade sur l'axe Tinagof-Beldiab ayant fait 7 morts. Dans la riposte, l'armée a abattu 9 terroristes, a déclaré un agent de police sous le couvert de l'anonymat. Cette attaque, rapportée par plusieurs médias burkinabés, a fait également des blessés au sein de l'armée selon des sources concordantes. Le ministère burkinabé en charge de la défense n'a pas encore communiqué officiellement sur cet attentat. Alors que les secteurs politiques sont en pleine campagne électorale, la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers jours dans le Sahel et le nord du pays. Au moins 4 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque armée menée par des individus non identifiés dans la province de Namentenga, centre-nord. La veille, dans la localité de Goudébo, sur l'axe d'Ori-Gorom, dans la province de Soum, dans le Sahel burkinabé, une attaque contre le véhicule d'un député en campagne électorale avait coûté la vie à une personne. L'aviation éthiopienne a lancé plusieurs séries de raids sur des positions tigréennes, tandis qu'au sol, des combats à l'artillerie lourde auraient opposé les troupes fédérales et les forces du Front de libération des peuples du Tigré. Le conflit dure depuis plus d'une semaine et le Haut Commissariat aux réfugiés ICER, estimant que la guerre risque de s'intensifier, s'attend à une vague massive. En 48 heures, au moins 11 000 Éthiopiens fuyant les combats se sont réfugiés dans l'est du Soudan. La plupart des réfugiés se concentrent aux alentours de la ville frontalière d'Hamdayet. Ce point de passage est situé du côté soudanais de la triple frontière avec l'Éthiopie et l'Érythrée. À pied ou embarqués dans des camions de l'armée soudanaise, ces milliers de déplacés descendent la rivière qui sépare la région de Kassala de celle de Gedarif. Certains ont marché plusieurs jours pour fuir les intenses combats et les bombardements dans la région du Tigre. La Commission soudanaise pour les réfugiés craint qu'en cas de poursuite des hostilités, près de 200 000 personnes affluent à l'est du Soudan. Dans l'urgence, les autorités locales cherchent des solutions d'accueil. Mais le défi est de taille, selon un contact sur place. Les autorités ont décidé d'ouvrir un nouveau camp de réfugiés à Umrakuba, car les réfugiés tigréens ne voulaient pas rejoindre le camp de Chagarap, qui est peuplé de tribus érythréennes. Mais le problème, c'est que Rakuba est peuplé d'Amharas, explique-t-il. Le Soudan accueille d'ailleurs déjà de nombreux réfugiés issus de confrontations historiques entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Aujourd'hui, en plus de gérer la situation humanitaire catastrophique, les autorités soudanaises marchent sur des œufs pour ne pas attiser de tensions communautaires parmi les réfugiés. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Caucase Sud sous contrôle de Poutine. Iran-Russie commence la désotanisation. Un Hmeymem avec un accès exceptionnel pour les vols militaires iraniens, mais planté en plein Caucase. Avouons que le coup parfaitement prémédité que vient de faire l'Iran et la Russie, au bout de près de 60 jours de démonstration de force USA-Israël-OTAN, dans une région si vitale pour la sécurité de l'Iran, de la Chine et de la Russie, est de quoi laisser pantois le camp d'en face. Même si le président azerbaïdjanais se démène pour prouver par A plus B que la trêve made in Russie, d'il y a 2 jours, inclut aussi la Turquie, et que le sultan, qui rêvait de créer un Idlib bis aux portes de la Russie et de l'Iran, ne cesse de répéter à qui veut bien entendre que le cessez-le-feu Arménie-Azerbaïdjan, c'est lui qui y a contribué. Qui rêvait de créer un Idlib bis aux portes de la Russie et de l'Iran ne cesse de répéter à qui veut bien entendre que le cessez-le-feu Arménie-Azerbaïdjan, c'est lui qui y a contribué. Au fait, le tir de Manoupad que les terroristes idlibans, soutenus par Ankara, ont lancé depuis Nakhichevan contre le Mi-24 russe alors qu'il traversait le ciel arménien pour se rendre avec des militaires à bord vers sa base a eu quelque chose de très israélien. On se rappelle fort bien comment il vint russe qu'Israël a cru pouvoir abattre aux frais de la Syrie, lui a été fatal, ayant causé la connexion du ciel de la Syrie occidentale à la DCA russe. Toujours est-il que depuis 48 heures, les avions IL-76 russes ne s'arrêtent pas de décoller depuis l'aérodrome d'Ulyanovsk en Russie à destination du Haut-Karabakh pour y conduire quelques 2000 militaires, au nombre desquels figurent des centaines d'officiers, de forces spéciales, de forces de renseignement, coiffés tous sous la labelle 15e brigade de maintien de la paix. Cela veut dire très clairement que le ciel du Caucase Sud, que l'axe USA-OTAN-Israël a cru un moment avoir pris sous son contrôle, lui échappe définitivement et ce, à la faveur de ces postes d'observation russes qui constitueront au fait une méga-centre de commande aérien en plein Caucase Sud. Et dire que le bel est de 5 ans et renouvelable à moins que l'une des trois parties signataires de la trêve, à savoir Aliyev, Pachinian ou Poutine, en fasse la demande. Mais qui des deux premiers l'oserait? Alors qu'il est le premier ministre arménien, ami et élève du sioniste George Soros, compte les heures avant que la foule des Arméniens en colère ne le lynche comme son chef du Parlement pour avoir trahi la nation. L'Arménie revient droit dans le giron de l'Est après une assez longue période de flirt avec l'Occident et Israël. Quant à Aliyev, qu'a servi sans trop le savoir de meilleur à la Russie et à l'Iran, il pourrait afficher son sourire de gagnant rien que pour les localités reconquises, mais qui restent, qu'on le veuille ou pas, sous l'emprise russe. Le sultan d'Ankara a donc perdu encore son pari pour avoir cru pouvoir gagner le Caucase à coup de drone, made in Canada et Australie, mais peint de couleur rouge et à l'aide de l'assistance sioniste. C'est son quatrième fiasco après celui de la Syrie, de l'Irak et de la Libye. Et l'Iran dans tout cela. Il n'a cessé d'opérer dans l'ombre avec un plan présenté aux Russes il y a un bon bout de temps et au terme d'une tournée fort fructueuse du vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi à Moscou, tournée qui a conduit ce dernier dans les autres capitales concernées. Mais le sultan et ses amis US-israéliens n'ont rien vu venir, occupés qu'ils étaient à gonfler leurs soi-disant exploits guerriers. Après avoir récupéré les territoires perdus, Aliyev ne saura justifier auprès de son armée, à majorité chiite, la présence des officiers turcs et des chefs de guerre takfiristes. Comme quoi, l'argument ethnique que le sultan a voulu jouer contre l'Iran s'est retourné contre lui. La trêve permet le retour d'environ 1 million d'Azerbaïdjanais déplacés dans leur foyer et leur pays d'origine, ce qui coupe court au risque d'un afflux de réfugiés vers l'Iran. Et puis le Karabakh retrouve sa place au sein de l'Azerbaïdjan, comme du temps de Staline, Poutine ayant corrigé là une erreur historique. Il peut se flatter d'être un joueur d'échecs de poids, puisqu'il a aussi réussi un bel retour de l'Arménie à la maison russe. Mais ce n'est pas tout. Avec 2000 militaires russes placés en Azerbaïdjan, il ne reste plus aucun prétexte à ce que les officiers turcs ou israéliens occupent les casernes azerbaïdjanaises. C'est là l'une des méga cartes qui se joue pour le grand bonheur de l'Iran. 10 ans de combats communs en Syrie a fait du corps des gardiens de la révolution islamique et de l'armée russe de solides partenaires. Et entre-temps, les Yankees s'entretuent.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cet accord sur la fin de l'hostilité et de la guerre qui a été conclu récemment par en fait le président azerbaïdjanais, arménien et russe. Cet accord a mis, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, un terme à cette guerre dans la région du Haut Karabakh, de la guerre qui opposait en fait de la République d'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Et cet accord a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président russe de Vladimir Poutine et le premier ministre d'Arménie. Du côté surtout de l'Azerbaïdjan, cet accord a suscité des scènes de liesse à Bakou et dans d'autres régions du pays, mais du côté d'Erevan, c'était, si vous voulez, une déception. Des manifestations ont eu lieu en fait à Erevan, capitale d'Arménie, pour protester contre la signature de cet accord. Mais quelle est l'importance de cet accord? Quelle est la portée de cet accord conclu entre la Russie, la République d'Azerbaïdjan et la Russie? Nous allons en fait aborder cela dans le cadre de cette émission avec deux spécialistes des questions internationales. Avant de vous le présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage. On reviendra tout de suite après.
Silence radio à Ankara. Ces quelques 2000 soldats russes que Poutine a commencé à déployer dès le mardi 10 novembre à minuit le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh, soit dans la stratégique localité de Lachin, avec leurs 90 véhicules blindés et 380 équipements militaires, alors qu'il quitte la Russie, cela fait sans doute écho à ses 3 bataillons blindés, ses dizaines de forces commando et ses 500 équipements militaires que l'Iran a placés ces 2 dernières semaines et à un rythme régulier sur ses frontières avec l'Arménie que contrôle désormais la République d'Azerbaïdjan. Au fait, cette trêve que Poutine a fait signer un peu à la Cosaque, au Sorosien Pachinian et à l'Otanien Aliyev sous les yeux ahuris d'Ankara qui s'apprêtait, après la prise de Choucha, d'aller droit vers Stepanakert, donne bien à penser que l'axe Russie-Résistance attendait son heure avant de réagir pour couper l'aile à l'élan caucasien du sultan et de ses soutiens israélo-américains. Le futur électoral US aidant, la Russie vient donc de s'emparer militairement du cœur battant du projet caucasien de l'axe US-israélien, et ce suivant le terme de la trêve qu'Aliyev a qualifié de capitulation militaire de l'Arménie pour une durée de 5 ans. Cela veut dire que l'éventuel successeur démocrate de Trump, à qui les experts reconnaissent une mission, celle d'allumer la mèche des guerres croisées aux portes de l'Iran, de la Russie et de la Chine, se trouverait pour les 5 années à venir et de manière renouvelable, nez à nez, avec l'ursus russe. Pas brillant pour un sultan qui a dû se retirer ces 15 derniers jours sous l'effet conjugué des missiles Iskander russes et des missiles tactiques Fateh 110 iraniens de 3 des 50 postes d'observation, que les mercenaires pro-Turquie occupés dans le nord-ouest syrien depuis 3 ans et où ils ont même créé un pool d'exportation de terroristes.
Merci infiniment d'avoir choisi cette émission, le débat consacré à cet accord conclu entre la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie pour mettre fin à la guerre dans la région du Haut-Karabakh. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux spécialistes des questions internationales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître Arnaud Develet. Monsieur Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité.
Et l'invité de l'émission, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est un géopoliticien belge des questions internationales. Il s'agit de M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et mon cordial salut à mon collègue Maître Develet.
Et c'est un plaisir partagé, Luc Michel. Luc Michel, On va commencer avec vous, notre émission d'aujourd'hui. Première question, comment évaluez-vous cet accord signé entre la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie au sujet de la région du Haut-Karabakh?
C'est une grande victoire de la Russie, appuyée par l'Iran. Et il faut voir comment les médias, non seulement les médias turcs, mais les médias occidentaux, sont KO debout. La Russie a démontré un sens tactique, ce sont des joueurs d'échecs. Ils ont attendu le bon moment, ils ont attendu la bonne situation. De quoi s'agit-il? La Turquie est éjectée du processus de paix, elle n'est plus sur le territoire. La grande ruée vers l'annihilation de la République du Nagorno-Karabakh, mais aussi la constitution d'un couloir touranien de la Caspienne jusque la Turquie, ce n'est plus à l'ordre du jour. L'armée russe est maintenant présente aussi bien sur le territoire arménien, ce qui est déjà le cas, mais sur le territoire azéri. Et bien entendu, derrière tout ça, les parrains occidentaux du processus de Minsk, États-Unis et France, sont éjectés de ce processus. C'est la Russie qui contrôle les choses. Et le principal, c'est que dans le Caucase, l'arrivée de l'OTAN via donc les Turcs est stoppée. Mais le coup va encore plus loin, puisque finalement, Poutine a réussi à mettre au pas deux régimes qui étaient revêches. L'Arménie, il faut le rappeler, c'est un régime qui est issu d'une révolution de couleur en 2018 et qui jouait un jeu, on peut te dire, de s'asseoir entre deux chaises. Un jour, je souris aux Occidentaux et aux Israéliens. L'autre jour, je suis quand même membre d'une alliance, l'OTSC avec la Russie. Le pouvoir qui est à Yerevan, il a de graves problèmes. Moi, je pense qu'il ne va pas survivre à ce qui est une capitulation militaire, pas russe, mais arménienne. Et je pense donc qu'on n'est pas à l'abri d'un changement de régime. Bien entendu, c'est tout bénéfice pour Poutine, mais Poutine a également pris des gages sur le gouvernement azéri. On sait que les généraux azéris, depuis de nombreux jours, sont hostiles à l'arrivée des Turcs aux côtés du pays, tout simplement parce qu'ils sont chiites et ils voient arriver des djihadistes ou des kafkiristes, comme vous les appelez, qui sont des extrémistes sunnites wahhabites, et donc ça passe très mal. Il y avait des bruits d'ailleurs de mécontentement des généraux. Ici, non seulement l'Azerbaïdjan ne pourra pas rejoindre l'OTAN, ce qui était le rêve du grand état-major de l'OTAN à Bruxelles, mais il y a maintenant des troupes russes sur le territoire azéri. Enfin, il y a une dernière chose qu'il faut dire, c'est que vous verrez de ci, de là, on considère dans la presse occidentale que l'Azerbaïdjan a remporté une victoire. Tout cela se base uniquement sur les déclarations du président Aliyev. Mais il y a quelque chose qui est à constater. En 2011, la Russie, déjà Poutine, avait proposé des négociations à Kazan et un plan donc de paix exactement identique à celui-ci. En 2011, Bakou avait dit que ce plan était inacceptable et correspondait à une défaite. C'est celui qu'ils viennent pourtant d'accepter. Donc la Russie, c'est tout bénéfice. Et pour votre pays, l'Iran, qui a appuyé militairement sur sa frontière la Russie, c'est également un grand succès. C'est un échec complet pour la Turquie.
Maître de Volley, votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Oui, bah écoutez, j'aurais presque tendance à dire que je ne vois pas trop quoi rajouter à l'analyse de Luc Michel. Effectivement, il y a une analyse à faire au niveau régional et international et une analyse à faire au niveau local. Au niveau local, comme Luc Michel l'a souligné, le gouvernement arménien avait tendance à plutôt être pro-OTAN, pro-sorosien, ou en tout cas très ambigu sur son orientation en termes de politique étrangère. La temporisation et la gestion du conflit par Moscou a permis, quelque part politiquement, d'exposer les limitations de ce gouvernement, avec les conséquences qu'effectivement, au rythme où les choses vont, il semblerait que ce gouvernement ne va pas durer très longtemps.
En termes de la situation régionale, effectivement, l'OTAN est stoppé net dans son élan de pouvoir s'infiltrer dans le Caucase Sud et créer des foyers d'instabilité comme on a coutume à la frontière effectivement, entre la Russie, l'Iran et accessoirement la Chine, et donc porter un coup à l'ensemble de ce qui pourrait ensuite être perçu comme cette route de la soie. Hein. N'oublions pas ça en toile de fond. Et bien sûr, de toute manière, l'accord portant sur les 5 ans à venir, renouvelable, comme vous l'avez souligné, permet à la Russie la liberté de manœuvre de pouvoir prolonger le statu quo qui, ma foi, lui convient très bien. Donc c'est une opération vraiment très très bien réussie. Surtout éviter le piège de se retrouver pour la Russie empêtrée dans les accords signés d'assistance mutuelle signés avec l'Arménie, donc limiter la présence russe, l'intervention russe au plateau. Et je dois avouer que c'est un coup de maître, un de plus pour Vladimir Poutine.
Et de Luc Michel, vous l'avez dit que voilà, c'est une victoire pour la Russie, mais également pour l'Iran. S'agissant de la position adoptée par Téhéran, il y avait cette réaction du côté du ministère iranien des Affaires étrangères. L'Iran, qui salue en fait cet accord, espère en fait voir cet accord aboutir. L'Iran, qui insiste une fois de plus sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité nationale et de ne pas changer en fait les frontières officielles, de libérer les territoires occupés et de respecter la sécurité et les minorités, les droits, pardon, des minorités et du retrait de toutes les forces takfiristes. L'Iran insiste, Luc Michel, sur cette nécessité de ne pas permettre en fait aux terroristes takfiristes d'être actifs dans cette région du monde, Luc Michel.
Il y a une triple dimension. Tout d'abord, aussi bien Moscou que Téhéran ont évité ce qui était le piège géopolitique des Américains, des Israéliens et de la Turquie. De quoi s'agissait-il ? Vous savez que la Russie est membre, avec l'Arménie, d'une organisation militaire qu'on appelle la contre-OTAN, l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Le but des Turcs, c'était d'amener les Russes à intervenir militairement, non pas pour établir la paix au Karabakh, mais d'établir aux côtés de l'Arménie. Premier piège. Second piège qui concernait votre pays, c'était d'obliger Téhéran, finalement, à se ranger du côté de l'Arménie et à donc contester un régime à Bakou qui est un régime chiite comme celui de Téhéran. Donc le double piège a été tout à fait éliminé. Il y a une troisième dimension qu'on néglige dedans. C'est un avertissement à ceux qui ont relancé les révolutions de couleur. Vous savez, les révolutions de couleur, c'est cette série de changements de régime qui ont lieu depuis 20 ans un peu partout, dans toutes les ex-républiques soviétiques, à Hong Kong, à Haïti, au Venezuela, dans ce qu'on a appelé le printemps africain, dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est la même chose. Depuis quelques semaines, Pompeo et Trump ont relancé des révolutions de couleur au Bélarus pour renverser Loukachenko, en Moldavie et au Kyrgyzstan. Il faut savoir que si Biden l'emportait, ce qu'on ne sait pas encore dire maintenant, ces révolutions de couleur ne s'arrêteront probablement pas, parce que les révolutions de couleur sont pilotées aux États-Unis non pas par la présidence, mais par des commissions bipartisanes du Congrès et du Sénat des États-Unis. Ici, en donnant un coup d'arrêt aux suites de la révolution de couleur de 2018 en Arménie, en donnant un coup d'arrêt à l'infiltration de l'OTAN en Azerbaïdjan, c'est un avertissement que Poutine vient de donner à ceux qui agissent au Moldavie, à ceux qui agissent au Bélarus et au Kyrgyzstan. Il y avait hier un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et Poutine a donné un grand discours et il a explicitement dit ce que je viens de dire. Il a dit que 3 révolutions de couleur avaient été relancées contre 3 pays de l'Est européen. Et il a annoncé que la Russie ne resterait pas l'arme au pied pour regarder ces changements de régime se faire. Ça, c'est la dimension internationale de l'échec turc et atlantiste en Azerbaïdjan.
Et Maître de Volley, vous êtes à Damas, capitale syrienne. Lorsqu'en fait cette guerre était en cours dans la région du Haut-Karabakh, il y avait des dépêches qui parvenaient de la région du Haut-Karabakh, également de la Syrie. Et des dépêches qui indiquaient que voilà, il y a des terroristes takfiristes qui sont redéployés du territoire syrien vers la région du Haut-Karabakh. Cela a suscité l'inquiétude, si vous voulez, des pays de la région, dont l'Iran, la Russie. Alors, c'est une victoire pour la Russie et l'Iran qui insistent sur la nécessité de respecter les frontières internationales. C'est également, comme l'a dit Maître de Volley, un échec pour ceux qui essayaient d'abuser de cette guerre, de ce conflit, pour, si vous voulez, renforcer la présence des terroristes dans la région, surtout en fait à proximité des frontières iraniennes. Alors, c'est un échec pour le régime israélien également, dont des fabrications étaient utilisées pendant la guerre du Haut-Karabakh, Maître de Volley.
Oui, oui, absolument. Il n'est un secret pour personne que les Israéliens ont non seulement vendu un nombre assez important de systèmes d'armement à l'Azerbaïdjan, a investi beaucoup, et ce depuis plusieurs années, dans ce contexte afin d'établir non seulement, bien sûr, des ventes d'armes, mais aussi une relation bilatérale qui leur permettrait d'avoir une présence sur le terrain. Cette présence sur le terrain incluait visiblement un centre d'écoute au nord de l'Iran. Donc cette situation est autrement bien dégoupillée, si je puis dire, pour l'Iran, dans le sens où l'influence israélienne maintenant sera de facto réduite à sa plus simple expression. Pour ce qui concerne l'exportation des takfiristes, effectivement, dans la région en question, le Haut-Karabakh, ce n'est que la dernière manifestation, de toute façon, d'une opération de sous-traitance que l'OTAN a coutume de faire, que ce soit avec les soi-disant moudjahidines du peuple, que ce soit avec les takfiristes recyclés, et un jour en Libye, et un jour en Syrie, et plus récemment dans la région du Caucase du Sud. Ça permet d'éteindre ce foyer et peut-être maintenant, à la faveur de la stabilisation de la région, on va peut-être pouvoir obtenir des informations beaucoup plus détaillées sur le nombre de ces combattants, leur identité et en fonction d'eux, savoir qui les payait et qui les a acheminés. Après tout, c'est un levier qui permettra peut-être aussi à Moscou et à Téhéran de rappeler les responsabilités d'autres États dans la fomentation de ces tentatives de déstabilisation.
Et Luc et Michel, la Russie est militairement présente en Syrie. Venez de faire allusion, si vous voulez, au cas de l'Afrique. On sait que la Russie a tissé des liens très très importants, même sur le plan militaire, avec pas mal de pays africains également. Mais on ne va pas parler de l'Afrique et d'autres régions du monde. Revenons en fait à nos moutons et parlons de cette région du Haut-Karabakh. La Russie est militairement présente en Syrie, désormais militairement présente dans la région du Haut-Karabakh, parce que dans le cadre de cet accord de paix signé entre la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie, il va y avoir en fait le déploiement des soldats russes, qualifiés des soldats de maintien de paix dans cette région. Que signifie, Luc Michel, la présence militaire de la Russie dans cette région quand même névralgique est importante?
Elle est importante parce que, je le disais, maintenant l'armée russe est présente sur le territoire de l'Azerbaïdjan et ça va limiter tout risque d'adhésion de l'Azerbaïdjan à l'OTAN, ce qui est le but de la politique occidentale, aussi bien de l'Union européenne que de l'OTAN, d'ailleurs, depuis presque 20 ans. Il faut dire que les Turcs avaient un but, Il y avait déjà un front en Libye, il y avait un front en Syrie. C'était d'ouvrir un troisième front dans le Caucase. Et les Russes ont été un peu, pour employer une expression américaine qui est inspirée de la défaite américaine dans la bataille d'Ardennes en 1944, les Russes ont été, les Turcs ont été un pont trop loin. Ils n'ont pas compris que, contrairement à ce qui se passait en Libye ou en Syrie, on n'était pas loin des frontières de la Russie, mais ici qu'on était dans l'étranger proche russe, dans des ex-républiques soviétiques, que les Russes dans le Caucase sont historiquement et géopolitiquement, ils sont chez eux. C'est ce que les Turcs n'ont pas maîtrisé et c'est le grand coup de latte qu'ils prennent sur les doigts aujourd'hui. La présence militaire russe, elle s'est déployée immédiatement, en quelques heures, ce qui veut dire que les Russes étaient prêts, qu'ils ont acculé les Turcs et les Azéris dans un piège stratégique en utilisant la défaite arménienne, mais également c'est une présence militaire avec des missiles, avec des blindés. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. La Turquie a échoué en ne comprenant pas qu'en allant contester Moscou dans ce qu'on pourrait appeler, pour employer une expression française, le précaré russe dans le Caucase, les choses n'allaient pas se passer comme en Syrie ou en Libye.
Merci.
Maintenant, le rôle, si vous permettez, en une phrase, le rôle d'interface de la Turquie dans la distribution des terroristes depuis 10 ans, ils ont amené les terroristes contre Kadhafi en Libye en 2011, fin 2011, ils les ont ramenés en Syrie contre Assad, et maintenant ils sont en train de les distribuer de nouveau en Libye contre Haftar et au Nagorno-Karabakh. Et ça a des conclusions en Afrique dont vous parliez en un mot, c'est que la Turquie, grâce à son arrivée avec du terrorisme en Libye, elle est en train de se répandre en Afrique. Il y a maintenant un groupe terroriste qui s'appelle Al-Nusra, ce n'est pas un hasard, qui se trouve sur la frontière nord du Mali. Il y a des accords militaires de la Turquie avec le Niger, ce qui est une folie. Il y a une infiltration des groupes terroristes, mais aussi de la diplomatie turque un peu partout dans l'Afrique noire. Vous avez peut-être vu qu'il y a un ancien président malien qui est mort hier. Il était hospitalisé, ce n'est pas un hasard, en Turquie. Donc les apprentis sorciers de l'OTAN sont en train d'organiser une nouvelle vague terroriste avec les Turcs depuis la Libye.
Et Luc Michel, géopoliticien belge des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud Develet, juriste français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci infiniment pour votre fidélité à Presse TV français. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Les ambitions africaines de Daesh. Quelles perspectives ? Bien que toutes les branches de Daesh en Afrique ne représentent pas une menace majeure pour les pays africains, la présence croissante de groupes terroristes sur le continent est une tendance stratégique à prendre en compte sérieusement. Dans le programme d'aujourd'hui, nous vous parlerons des activités de Daesh en Libye. Le 4 juin 2019, Daesh a revendiqué 2 attentats à la bombe qui ont blessé au moins 18 personnes dans la ville côtière de Derna, dans l'est de la Libye, la première opération revendiquée par le groupe dans cette ville depuis 2016. Ces attaques, précédées de plusieurs autres de moindre envergure, menées par Daesh dans le sud du pays, entre avril et mai, sont une nouvelle preuve du retour opérationnel croissant de l'organisation en Libye. Cela dit, alors que Daesh reste soumis à une pression importante au Moyen-Orient, le groupe a l'ambition d'approfondir sa présence dans toute l'Afrique et pas seulement en Libye et au Maghreb. Le Sahel et la Somalie ont été les territoires privilégiés d'action de l'organisation, mais le groupe est en train de tenter également de renforcer sa présence dans des zones historiquement marginales dans la géographie du djihad mondial, telles que la République démocratique du Congo et le Mozambique. Le retour de Daesh en Libye. Au cours des deux dernières années, Daesh a réussi à atteindre des cibles à travers la Libye, conformément à son crescendo opérationnel enregistré depuis 2017. En août 2017, quelques mois après avoir été expulsé de son ancien fief libyen de Sirte, sur la côte, Daesh a fait son retour, se réorganisant dans plusieurs zones du sud et autour de Sirte, montrant que sa présence en Libye est loin d'être terminée. Déjà à cette époque, le retour opérationnel de Daesh en Libye était considéré comme une menace par les pays extérieurs. Il s'est confirmé de manière significative en 2018. En novembre, le groupe a mené une attaque contre un poste de police à Tazirbou, dans le district de Koufra. Un mois plus tard, Daesh avait revendiqué une attaque à Al-Furaha, dans le district de Joufra. Si ces attaques montrent la capacité de Daesh à opérer dans le sud et dans le désert, le groupe a également réussi à atteindre des cibles dans les grands centres urbains du pays, par exemple Tripoli. Ces tendances opérationnelles montrent qu'après avoir fui Sirte à la fin de 2016, Daesh s'est réorganisé en petits groupes qui se sont dispersés en Libye, capables de frapper dans différentes régions du pays. Cette évolution a également été favorisée par la faiblesse des forces qui avaient réussi à vaincre Daesh à Sirte et qui étaient trop mal équipées pour entreprendre des opérations dans le désert. Les cellules de Daesh sont maintenant présentes dans les régions autour de Sabha, Oubari, Koufra et Al-Awaina, en particulier dans les territoires situés dans les régions montagneuses et caractérisées par la présence des vallées éloignées. De ce point de vue, Daesh reproduit ce que le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, qui fait à la suite de l'attaque française dans le nord du Mali en 2013 et 2014, c'est-à-dire utiliser le sud de la Libye pour réorganiser ses rangs et se diriger vers le Sahel pour transformer ce dernier en foyer opérationnel. Au moment de sa montée en puissance entre 2015 et 2016, Daesh n'avait pas réussi à prendre le contrôle des principaux checkpoints et des routes commerciales pour entrer en Libye par le Sahara. Toutefois, il jouit désormais d'une certaine liberté d'action dans la région avec l'appui des tribus arabes locales, même si Daesh en Libye lui-même est hautement internationalisé. Les combattants étrangers ont toujours joué un rôle important dans le groupe Daesh, car la composante libyenne était limitée en nombre. L'importance des membres étrangers au sein des rangs de Daesh a même augmenté. Sur les quelque 700 membres de Daesh en Libye, près de 80% sont d'origine étrangère, selon des sources de l'Africom, avec des combattants venant également de pays comme l'Érythrée et le Ghana, et non pas seulement du Maghreb et des pays sahéliens. Le sud de la Libye offre également aux groupes un marché de plus en plus important pour le recrutement. L'organisation peut offrir de l'argent et du soutien aux migrants qui arrivent en Libye dans leur voyage vers l'Europe. De ce point de vue, le groupe est l'un des agents de marché des mercenaires étrangers qui se développe en Libye depuis quelques années. Cependant, la présence de Daesh ne se limite pas au sud. L'organisation existe toujours dans le désert méridional de Sirte, en particulier à Bani Walid et Bali Zamzam. C'est dans ces zones que les forces de Daesh se sont retirées après la défaite de Sirte. L'attaque de Derna est le symbole de la nouvelle réalité stratégique dans laquelle Daesh opère en Libye. L'opération militaire de l'armée nationale libyenne, lancée par le général Khalifa Haftar dans l'Ouest en avril 2019, a créé des opportunités pour Daesh dans le reste du pays. D'un point de vue stratégique, s'installer dans l'Ouest de la Libye signifierait pour Haftar un relâchement inévitable à l'Est et au Sud, car l'armée nationale libyenne n'aurait probablement pas les ressources humaines et logistiques nécessaires pour garantir les mêmes niveaux de contrôle. Il s'agirait d'un cas typique d'étirement excessif qui pousserait probablement certaines des forces vaincues ou marginalisées dans l'Est et le Sud à se réorganiser, surtout si la situation à l'Ouest se détériore ultérieurement. Une dynamique qui pourrait amplement profiter à Daesh en Libye. Au-delà, Daesh a l'ambition d'approfondir sa présence dans toute l'Afrique, et pas seulement en Libye et au Maghreb.